Italian squandered, Americans say it is money, Hindus say it does not exist. You know what I say? I say time is a crook.
I went out with my umbrella, it looked a little grim. The sky was black, the air was cold, the day was gray and dim. But as I strolled toward my goal, the sun burst through the clouds. I threw down my umbrella, and then I cried out loud, oh, the future is a past that hasn't happened yet. And everybody knows that what you see is what you get. But the movies in your mind is a place you cannot find. And if you see ahead, you are missing your behind. To the airport, I tried not to be late, but I was very nervous as I walked up to the gate. I dreamed I saw an albatross that soared across the sky, and then I heard our plane had crashed and everyone had died. Oh, the future is a past that hasn't happened yet, and everybody knows that what you see is what you get. But the movies in your mind is a place you cannot find, and if you look ahead, you are missing your behind. I knew that I would die. I made a will, I took a pill and prayed to God on high. But when I walked toward the light, I learned the truth at last. I'd been born in my own colon and the world was up my ass. Oh, the future is a past that hasn't happened yet. And everybody knows that what you see is what you get. But the movies in your mind are a place you cannot find. And if you look ahead, you are missing your behind.
Alors, c'est pas Hitler, comme ouais. disait Jean-Mathias, c'est Jeudi Noir qui commence sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître, ni publicité. Vous venez d'entendre un morceau du meilleur groupe de toute l'histoire de l'humanité, No Means No, The Future is a Past.
Avec les Beatles quand même.
No Means No. Et avec José on dit Et donc un morceau canadien, non pas anglais, d'accord, la perfide Albion ça suffit, de 2006, un morceau assez récent finalement. Et donc,
ce soir... Le titre, The Future is the Past.
Oui, je l'avais donné.
Hey.
Écoute mieux, sois plus attentif. Ouais. Et donc ce soir,
j'avais
avec Jean-Mathias...
J'avais une chemise à carreaux dans l'œil.
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de carreaux sur ma chemise. Et donc...
Monsieur le Canada.
On commence l'émission.
Le sirop d'érable et tout.
Voilà. Et voilà, tu reprends tous les préjugés sur les Canadiens. Et donc ce soir, Jean-Mathias va nous parler d'un livre que j'avais présenté très très rapidement à sa sortie lors d'un marathon littéraire. Le modernisme réactionnaire de Jeffrey Herf. Haine de la raison et culte de la technologie aux sources du nazisme. Donc c'est un livre qui a été publié par L'Échappée il y a maintenant quelques années.
2018,
mais qui vaut largement la peine et la lecture, même si c'est un livre relativement long. Vous avez 300 bonnes pages, disons. Et donc c'est un livre qui, parce qu'on est extrêmement organisé et qu'on pense nos émissions environ 6 mois à l'avance, fait évidemment écho au livre qu'on avait présenté il y a 2 semaines sur le fascisme et l'écologie. D'accord ? Et en particulier dans le fait que d'une certaine manière, ce qui va distinguer le mouvement fasciste, c'est un rapport très particulier à la modernité. C'est-à-dire que, pour aller vite, les réactionnaires voudraient effacer ce qu'on pourrait appeler la modernité, qu'elle soit technique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit politique ou philosophique. Modernité qu'on pourrait définir très rapidement par un certain individualisme, une certaine valorisation de la raison individuelle justement face à la tradition. Tout un tas de choses comme ça qui ont été perçues par le conservatisme comme des dynamiques de dissolution du corps social, de l'autorité, extrêmement dangereuses pour justement la société qu'ils conçoivent comme une espèce de truc organique. Et ça, ce serait une espèce de réaction classique, disons, où tout ce qu'on veut, c'est effacer tous les apports, globalement, des Lumières européennes en Europe. Et ce que montre le livre que Jean-Mathias va nous présenter ce soir, ainsi que le livre dont on parlait il y a 2 semaines, enfin un peu plus de 2 semaines, c'est que le fascisme entretient un rapport à la modernité qui est plus complexe et que plus ambigu, et que ça ne consiste pas en un rejet pur et simple de tout ce qui la constitue. Et que le fascisme va... et c'est un mouvement moderne, c'est pas un mouvement passéiste, d'une certaine manière, lui aussi. Mais c'est un mouvement moderne qui va sélectionner ce qui l'intéresse dans notre modernité. Et en l'occurrence, justement, ce que va essayer de montrer, ce que montre Jeffrey Herf dans son livre Le modernisme réactionnaire, je crois, c'est qu'est-ce que, d'une certaine manière, le fascisme retient de la technique. Et à partir de là, il y a toute une lecture qui peut être très très intéressante, justement d'auteurs dont on a régulièrement parlé, comme Junger ou Heidegger. Heidegger, par exemple, le livre donc de 84, je crois, en allemand.
Ouais.
Ça, et il est assez visionnaire, le bouquin.
Justement, il n'est pas visionnaire.
Ah, c'est tu penses
peu...
ça
Oui, non,
c'est
plus
simple. Ah, moi, je sais pas, il y avait des passages que j'avais lus qui me semblaient, mais d'une certaine manière, il disait, en gros, le rapport à la technique chez tout un tas de fascistes va être ambigu, parce qu'ils ont tendance à la louer tant que le mouvement fasciste l'emporte, et ensuite à l'accuser de tous les maux et la rejeter avec le rationalisme après coup.
Je vais en parler
dans l'apologétique. D'accord, ok. Donc voilà un petit peu une présentation très rapide. Alors Jean-Mathias,
je suis très content de parler de ce livre ce soir là, parce qu'effectivement on en avait parlé très très vite là lors d'un marathon. J'avais pas eu l'occasion de le lire en entier depuis, et en fait, alors moi je le dis franchement, c'est un très très grand livre d'histoire des idées, vraiment. Ça fait longtemps que j'avais pas lu un livre comme ça. Bon, on avait parlé aussi des livres de Jonathan Israel ou de gens comme ça où on est sur l'histoire des idées informée, intéressante,
Ziv Sternel aussi, sur les anti-lumières
aussi. Là, on est vraiment dans cette veine-là, avec peut-être encore un cran au-dessus en termes de compréhension et de maîtrise des références qu'il utilise. Alors, il est sociologue, historien. C'est un historien des idées. Et là, c'est un livre d'histoire des idées, clairement. Et il défend en fait cette approche-là, d'ailleurs, de manière très convaincante. Alors, je dis deux mots aussi peut-être sur la traduction. Parce que c'est pas un détail, c'est Frédéric Joly, le traducteur, qui est un traducteur, un des meilleurs traducteurs, un des traducteurs et éditeurs d'Orwell notamment. C'était aussi celui qui a été, je sais pas s'il y est encore, mais il était qui a fondé les éditions, la maison d'édition Climat notamment. Ça a été un éditeur de Michéa. C'est un de ceux qui a rompu avec Michéa depuis déjà quelques années. En général, il se trompe pas sur l'intérêt. C'est un des traducteurs aussi de Christopher Lasch, par exemple. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui se trompe rarement sur l'intérêt des auteurs qui choisit. Et là, il tape dans le mille. La traduction est absolument remarquable. Et le texte d'origine est vraiment excellent aussi. Alors, tu as parlé rapidement, là, du coup, en faisant un lien avec ce qu'on avait discuté la dernière fois. Alors, je suis à la fois d'accord et à la fois pas d'accord. Parce que, alors, un des intérêts du livre, une des forces du livre aussi, c'est qu'en fait, c'est un livre qui est très situé historiquement. différent. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il va montrer, il s'intéresse pas au fascisme en général, ou au rapport à la modernité en général. Ce qu'il essaie de montrer, c'est qu'en fait, il y a une alchimie, un cocktail particulier qui se met en place en Allemagne et qui va expliquer, en fait, la spécificité du nazisme, à la fois dans son intensité, dans sa brutalité et dans sa durée également. Et il dit, en fait, que là, on a un phénomène qui est particulier, qui est pas comparable à ce qu'on a pu avoir ailleurs.
Bah oui, c'est vrai. Il cherche à dégager la spécificité du nazisme et dans son rapport à la modernité.
Exactement. Et il va chercher.
Moi, je faisais un chapeau plus général. C'est ça. T'as complètement.
Et en fait, c'est très convaincant parce que en fait, il y a quelque chose effectivement d'un peu pas mystérieux, mais il y a quelque chose de, oui, si, il y a quelque chose qui échappe toujours un peu, souvent, à la compréhension, si tu veux, dans le phénomène nazi. C'est-à-dire que, bon, il y a eu plein de tentatives d'expliquer ça, hein. Voilà, le charisme d'Hitler, surtout les interprétations et les explications très marxisantes, matérialistes. On a parlé de la crise, la dévaluation, l'inflation, alors l'humiliation de la défaite aussi de la Première Guerre mondiale. Mais lui, alors en fait, il rejette pas, si tu veux, toutes ces explications là, hein, pour expliquer le nazisme, y compris voilà dans son radicalisme et son extrémisme. Mais ce qui l'intéresse, c'est d'essayer d'apporter un peu une analyse qui finalement est assez rare, je trouve, dans le phénomène, c'est-à-dire celle des justifications idéologiques et culturelles, je dirais, hein, de ce mouvement-là, et qui sont, d'après lui, en fait, des raisons importantes du succès du nazisme en Allemagne et du fait qu'il a eu cette espèce de souffle, en quelque sorte, de 33 à 45, et à 45, il faut qu'effectivement il soit écrasé sous des tapis de bombes à Hambourg, à Dresde, à Berlin. Il faut que le Führer se suicide au fin fond de son bunker. Il faut écraser, d'une certaine manière, le nazisme, mais jusqu'au dernier moment. Alors évidemment, l'enthousiasme a un peu baissé, hein, dans la population, mais jusqu'au bout, d'une certaine manière, il bénéficie d'un soutien majoritaire, en tout cas significatif, dans la population allemande. Et alors, d'après lui, c'est pas grâce, hein, à ces auteurs-là, tu l'as dit, qui sont des auteurs, bon, des intellectuels, hein, intellectuels d'ailleurs de haut niveau pour beaucoup. Mais c'est ce qu'on réussit à faire, d'après lui, ces intellectuels, qui va regrouper dans ce mouvement qu'il appelle le modernisme réactionnaire. Alors, c'est pas que des intellectuels d'ailleurs, hein, il parle, voilà, il y a des références, il y a des auteurs, des philosophes, des romanciers, des juristes. Mais il s'est aussi intéressé à toute la presse professionnelle des corporations d'ingénieurs allemandes. Et ce qui montre notamment, c'est la porosité, l'espèce de circulation des idées qui s'est faite entre des auteurs d'avant-garde. Hein. Ça, c'est un point très important aussi, c'est qu'en fait, il va penser l'idéologie nazie comme un mouvement d'avant-garde. Hein, comme un mouvement d'avant-garde, ce que j'ai pas lu souvent. Il pense ce mouvement-là comme un mouvement d'avant-garde, et un mouvement d'avant-garde qui va en quelque sorte sélectionner dans l'histoire et dans la culture allemande, qui va se faire un espèce de mélange, une espèce de sélection, un mix un peu étonnant, mais qui va s'avérer complètement explosif et surtout qui va irriguer en quelque sorte différents pans de la société allemande. C'est-à-dire qu'on s'attendrait pas, et ça c'est assez passionnant, on s'attendrait pas à lire dans de la presse professionnelle d'ingénieurs des espèces d'analyses métaphysiques ou mythologiques sur l'âme allemande, sur la volonté de puissance allemande et sur la manière dont en fait le réarmement de l'Allemagne va permettre en quelque sorte d'accomplir cette vocation du peuple allemand à créer une nouvelle société. C'est quelque chose de très très étonnant, c'est-à-dire qu'on a effectivement des spéculations.
Parce que je savais que Heidegger avait écrit des choses comme, en gros, la motorisation de la Wehrmacht était une victoire de la métaphysique allemande.
C'est constant.
La réussite de l'invasion allemande de la France marquait la victoire de la métaphysique allemande sur la métaphysique française cartésienne, horriblement.
Ça fait déjà 15 ans que tu lis ça dans la presse professionnelle des ingénieurs allemands.
Et c'est fou, parce que après, sur le mouvement, sur le côté avant-garde, ici, ce qu'on peut peut-être préciser à l'auditorat, c'est que justement, très très souvent, ce que nous, en France, on connaît comme étant l'avant-garde germanophone, méprise copieusement le nazisme comme une espèce de mouvement populaire de brasserie.
Exactement.
Et ils y voient quelque chose qui est bon pour les demeurer.
Absolument.
Et qui est justement complètement arriéré. Ce qui fait que tout un tas de gens, y compris des gens aussi brillants que Musil, finalement vont se faire comment dire, complètement balayés par la vague du nazisme, sans rien comprendre à ce qui leur arrive. Mmh. Parce que pour eux, ça vient justement du...
Des forêts teutoniques, du mouvement folkish qu'on a appelé les traditions, les culottes courtes, les bretelles d'Heidegger, etc.
Alors folkish, maintenant c'est souvent traduit comme raciste, ça vient de folk, le peuple, et ça a été un mouvement allemand qui a eu lieu à la fin du 19e siècle. Et qui est une des sources idéologiques du nazisme.
Ouais. Et qui, lui, insiste beaucoup, au contraire, sur le retour aux traditions. Hein. On est dans un retour à, on est dans effectivement quelque chose de réactionnaire, mais du point de vue culturel, et qui est aussi anti-technologique. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les traditions folkish, on est pour un retour à la nature, aux traditions ancestrales, à une espèce d'équilibre perdu, qui a été perdu à cause de l'industrie, à cause du capitalisme, à cause de la technologie, et... évidemment, le dernier terme, c'est à cause des Juifs. Hein, puisque c'est les Juifs qui sont la cause de tout cela. Et donc, alors effectivement, il y a cette composante, et elle a joué, et Hitler a su en jouer également. Mais ce dont il parle, c'est tout autre chose. Hein, c'est tout autre chose. C'est un mouvement qui est beaucoup plus délibéré, stratégique, je dirais, stratégique, mais qui est un mouvement d'avant-garde. Et ça, ça permet de comprendre peut-être... Alors, c'est, bon, il faut toujours se méfier de ces explications-là, mais je pense que c'est assez éclairant. Ça permet d'expliquer, selon lui, pourquoi on trouve dans le nazisme quelque chose comme une espèce de projet de révolution spirituelle. Hein, et qui a été visiblement un des moteurs effectivement du succès du nazisme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée, c'est un projet révolutionnaire, hein, c'est pas simplement un retour à une grandeur perdue où on retournerait à la forêt et on retrouverait un équilibre perdu à cause des Juifs ou des banquiers de Manchester. Non, il y a l'idée que en fait l'Allemagne et le peuple allemand a la vocation à régénérer spirituellement l'Europe et au-delà le monde, et que c'est la vocation du peuple allemand. Et ça va donner. C'est quelque chose qui est étayé, qui est appuyé. Alors ça peut avoir un côté délirant. Hein, on va voir pourquoi et comment. Mais qui est étayé effectivement sur une esthétique, sur une écriture, sur des analyses juridiques, sur des analyses philosophiques, sur des analyses historico-mythologiques, si tu veux, et qui va du coup donner cette espèce d'effet de souffle en quelque sorte à l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Alors. De qui on parle, hein, pour essayer de résumer un peu. Alors, les auteurs dont il est question, alors il parle de Spengler, notamment, qu'on a déjà évoqué ici, qui ouvre le bal, hein, en quelque sorte, de cette espèce de mythologisation de l'histoire du passé allemand et de la culture allemande, et qui va, qui lui est avec un discours très décliniste, son grand œuvre, c'est Le déclin de l'Occident, qui se veut une espèce de théorie, comme ça, morphologique des peuples, de une espèce de darwinisme appliqué aux cultures ethniques, on va dire, comme ça, avec une perspective de sursaut, en affirmant une volonté de puissance, une volonté de décision, qui est propre justement à l'âme allemande, et qui va permettre éventuellement d'esthétiser la violence, la volonté de puissance. Donc on est sur des trucs très spéculatifs, et en même temps énorme succès de librairie. Mais on est sur une espèce de pensée, c'est le premier à essayer d'articuler à la fois une espèce de critique anti-moderne, d'inspiration réactionnaire, avec une perspective moderniste. Voilà, c'est le premier à faire ça. Le second auteur auquel il s'intéresse, c'est Jünger. Le grand romancier Ernst Jünger, le héros de la Première Guerre mondiale, le grand romancier des années 20-30 en Allemagne, et qui a survécu d'ailleurs après, il n'est pas passé loin du Nobel, lui, alors bon, il a quand même... Il était à l'ami de Mitterrand, exactement.
Pléiadisé en France.
Très médiatisé en France.
Pléiadisé,
exactement.
Donc, il a son œuvre publiée à la Pléiade, une collection très prestigieuse.
Alors, c'est tout à fait... c'est passionnant. Hein. Les analyses qu'il fait... Ami de Carl Schmitt, donc il va être question aussi. Donc, alors, il parle aussi de Carl Schmitt. Carl Schmitt, juriste, le juriste d'Hitler, qui lui aussi, alors, est toujours beaucoup discuté, beaucoup excusé.
Juriste d'Hitler, c'est vite, mais il est présenté comme ça
parce que il n'est pas présenté. C'est celui qui a été le plus proche dans son adhésion du parti nazi, c'est-à-dire que Jünger a jamais adhéré au parti nazi. Oswald Spengler n'était pas nazi. Heidegger a adhéré quelques années au parti nazi,
de 33 à 45,
mais il a pris soin, il a la prudence de prendre des distances au moins formelles avec le mouvement. Celui qui est le plus compromis et qui a jamais renié ça, c'est Schmitt.
Heidegger a jamais renié non plus.
Il a été discret, on va dire. Oui, il a été discret, il ne l'a pas revendiqué, alors que Schmitt a jamais renié quoi que ce soit de ce qu'il avait
écrit. Il était vu comme un arriviste par les, par les nazis, parce qu'il avait été aussi proche de Weimar.
Bien sûr. Ouais.
Et qu'on le trouvait pas assez...
pas assez convaincu.
Pas assez convaincu. On le trouvait un peu trop arriviste. Mais après, bon, il a écrit des horreurs, hein, ça, il n'y a aucun doute.
Alors, il parle aussi de Freyer, qu'on connaît moins, Hans Freyer, qui est alors une espèce de sociologue, historien. Hein, ça, c'est propre un peu à la vie universitaire allemande, où on a comme ça des intellectuels un peu panoramiques, je dirais. Et qui, lui, effectivement, a accentué et a contribué à donner une espèce de tournant quasiment théologique, si tu veux, au nationalisme allemand, et qui a ouvert la, et qui a ouvert les possibilités aussi d'avoir du coup une interprétation théologique de l'anti-Allemagne, hein, qu'on trouve alors là pour le coup complètement développé chez Sombart, qui est un élève de Max Weber, sociologue lui, et qui lui va effectivement assumer la bascule et assurer la bascule conceptuelle avec l'antisémitisme. Donc on a ça, il y a aussi tout un épluchage donc tout à fait passionnant, je vous dis, de la presse professionnelle des différentes corporations d'ingénieurs allemandes. Alors là pareil, alors avec des gens qui sont parfaitement inconnus, hein, parce que ce sont des, voilà, des ingénieurs en aéronautique, en, voilà, etc. Mais qui font de la philosophie, enfin en tout cas qui font de la spéculation, qui font de la spéculation, et qui relaient, diffusent, travaillent, reviennent, discutent, hein, toutes les thèses et les analyses qui sont proposées par, par les gens que je viens de citer là. Et puis après, la fin du livre est consacrée en fait au relais de cette idéologie moderniste réactionnaire. Je vais rentrer un peu plus en détail après dans l'appareil nazi, hein, dans l'appareil nazi avec un ministère de la beauté du travail quand même, hein, de la beauté du travail. Alors on va voir toute la genèse, hein, tout le travail intellectuel qu'il y a avant et idéologique qu'il y a avant pour que ce ministère soit crédible, soit possible, pensable. Hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même imaginer ce que ça représente d'avoir un ministre de la beauté du travail, hein, et de penser ça sérieusement, dans le cas d'une des pires dictatures qu'on ait jamais connues, il se donne un ministère de la beauté du travail, et c'est cohérent pour le public de l'époque. Hein. Donc il y a quand même, le délire vient de loin, en quelque sorte, et il a fallu un sacré travail en amont pour que ça soit possible. Donc il parle de Speer aussi, évidemment, et d'un certain nombre de figures qui ont comme ça essayé de maintenir ce lien avec une tradition qui, en fait, ce modernisme réactionnaire, finalement, il se développe surtout sous la République de Weimar, hein, parce qu'il fait partie, c'est une des branches de ce qu'on a appelé la révolution conservatrice sous Weimar, donc des farouches opposants à l'expérience démocratique de la République de Weimar, qui sont eux évidemment sur une position de retour à la Prusse impériale d'avant la guerre de 14. Parmi effectivement ces conservateurs, cette révolution conservatrice, il y a les modernistes réactionnaires, et en fait c'est eux qui vont prendre le pas, et c'est eux qui permettent, si vous voulez, de faire la jonction, si vous voulez, entre la droite classique, je dirais la droite réactionnaire classique, passéiste, ringarde, on va dire, et ce que va être l'arrivée des nazis au pouvoir. Et tout du long, hein, pendant toute la durée du régime, jusqu'à la fin, jusqu'à sa chute, vous avez des gens qui, dans l'appareil hitlérien, sont chargés, en quelque sorte, d'assurer la continuité avec cette branche-là. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas, il ne le dit jamais, hein, c'est pas la recette magique ou la théorie du nazisme, hein, ou c'est pas la clé permettant de comprendre le nazisme. Il y a sans doute, il y a évidemment tout un tas de faisceaux, de causes et de... Mais je trouve que il est très très convaincant en insistant sur l'efficacité, je dirais, l'efficacité politique de ce travail idéologique et intellectuel qui a été fait en amont. Alors, c'est aussi... ce qui est intéressant, on en avait parlé aussi ici, je pense que c'est plus avec ce type d'auteur-là qu'on peut faire le lien. On a parlé, c'est toi qui les avais présenté, hein, les livres de Johan Chapoutot, qui est un historien français aujourd'hui, qui justement s'intéresse à l'aspect intellectuel du nazisme. Hein. Longtemps, on a pensé qu'effectivement, le nazisme, c'était une affaire de brutes en culotte courte qui tabassait les gens dans la rue, ce que ça a été aussi, bien évidemment, et bien largement. Mais en fait, ce que Chapoutot montre, et en fait, ses sources, la source de ce type d'approche-là du nazisme, c'est justement ce livre dont je vais vous parler, hein, qui date de 84, tu l'as dit, hein, il publie en anglais en 84, donc c'est pas récent. Et il n'a pas été traduit en France, par contre, avant 2018, hein, ça c'est quand même un mystère.
C'est
un classique, ouais, mais le Chapoutot reprend ça, et en fait, tu avais parlé notamment de l'influence du nazisme chez les juristes, hein, dans la théorie du droit. Chapoutot a travaillé aussi dans les milieux philosophiques, universitaires, en fait, ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est le nazisme universitaire, hein, qui a existé, être universitaire, ça ne protège pas du nazisme, au contraire. Au contraire, ça a été un des vecteurs, un vecteur avec son efficacité réelle.
C'était la révolution culturelle nazie.
Exactement.
La révolution culturelle nazie, voilà. De Chapoutot.
Et alors, on est Chapoutot est finalement dans le prolongement, hein, je dirais, de ce type d'approche-là du nazisme aujourd'hui. Mais effectivement, l'argument, si tu veux, qui est derrière, il est tout entier déjà dans ce livre-là. On va peut-être du coup faire une première pause musicale et puis après j'essaierai de présenter 2-3 aspects du contenu.
Vous écoutez Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans lieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit, et vous venez d'entendre, pour cette deuxième partie, vous venez d'entendre un morceau de MDC, donc un groupe de hardcore américain des années 80-90, les meilleures années. MDC, ça veut dire plusieurs choses, hein, Millions of Dead Cops, Millions of Dead Children, ce que vous voulez. Et là, c'était un morceau, comment dire, un peu hommage, Nazis Shouldn't Drive, donc les nazis ne devraient pas conduire. Et c'était en hommage au chanteur de Screwdriver, un groupe de nazis qui s'était tué en voiture. Voilà, chez, comme diraient des gens que je connais. Et comment dire, on va pas se faire les guides de la sécurité routière pour les nazis. Et on vous présente un bouquin qui s'intitule Le modernisme réactionnaire, haine de la raison et culte de la technologie aux sources du nazisme de Jeffrey Herf, qui a été publié donc chez L'Échappée en 2018. Donc Jean-Mathias, qui nous le présente, nous disait un petit peu, nous présenter le projet général, c'est-à-dire présenter une explication spécifique de la version nazie du fascisme, à partir justement de leur rapport, non pas seulement à un passé fantasmé, mais aussi, finalement, à la technologie moderne.
Alors, t'as une formule, pour résumer ça, alors c'est... Et bon, il y revient au début, à la fin du livre, à un moment, c'est une formule de Goebbels, enfin, qui est attribuée à Goebbels. Goebbels revendique, en fait, dans un discours, je crois que c'est un discours de 34, en fait, il revendique à propos du nazisme ce qu'il appelle un romantisme d'acier. Et le romantisme d'acier, c'est la synthèse, effectivement, moderniste réactionnaire, qui a été élaborée par des intellectuels tout à fait éminents pendant près de 15 ans auparavant, sous la République de Weimar. Hein. Donc ceux que j'ai cités tout à l'heure, Spengler, Junger, Carl Schmitt, Heidegger, évidemment, des gens comme ça. Le romantisme d'acier, ça consiste à faire quoi? En fait, c'est une opération qui est assez simple, et en fait, c'est le clou sur lequel il va taper tout au long du livre, mais avec voilà, une foule de références et de déclinaisons absolument absolument passionnante. Ça revient à faire quoi ? Ça revient, si tu veux, à s'appuyer sur un mouvement qui a eu une importance considérable dans l'histoire du nationalisme allemand et de la culture populaire allemande, qui est le romantisme. Le romantisme est un mouvement qui se développe après les invasions françaises de Napoléon en Allemagne et qui va être une espèce de rejet national. Alors, à la fois de l'impérialisme français, mais aussi, dans le même temps, de toutes les valeurs qui sont portées par la Révolution française. Hein. Et alors, la Révolution française vise effectivement des valeurs d'émancipation, de liberté, de raison, de liberté, libération par la connaissance. Elle vise aussi les libertés individuelles, la promotion de la liberté individuelle contre les traditions et les contraintes collectives. La Révolution française vise aussi le progrès, hein, et elle cherche effectivement à appuyer le progrès dans tous les domaines moral, politique, scientifique et technologique, voilà. Donc ça, ce sont les valeurs effectivement de la Révolution française, c'est les valeurs de ce qu'on a de la modernité des Lumières, hein, qui est associée à ça. Alors bon, évidemment, on peut en parler longtemps de cela. C'est une modernité dans laquelle on vit toujours, au passage, hein, assez largement. Donc ça va effectivement avec à la fois une bonne conscience universaliste, hein, mais aussi avec la Déclaration des droits de l'homme, qui est pas le pire des acquis historiques, voilà, qu'on peut imaginer. Et le romantisme, d'une certaine manière, le romantisme allemand va essayer de prendre le contre-pied de tout cela, en essayant d'exalter plutôt l'espèce de lyrisme individuel contre le raisonnement, donc l'émotion, le sentiment. Voilà, il va exalter plutôt la nature contre la modernité, le progrès des villes et des techniques. Il va exalter plutôt la littérature et la poésie contre la raison, le raisonnement, la philosophie et les sciences. Il va exalter bien sûr les traditions plutôt que le progressisme et la démocratie. Et il va exalter le peuple, le collectif du peuple contre l'individu ses droits fondamentaux portés par la Révolution française.
La société organique,
plutôt
qu'une espèce de la communauté, plutôt que la société des individus libres qui choisissent de se réunir.
En allemand, c'est ce qu'on appelle la Gemeinschaft, donc l'espèce de communauté organique qui existe de tout temps contre la Gesellschaft. La Gesellschaft, c'est cette espèce d'agrégat anonyme dans lequel les individus ne cherchent que leur intérêt égoïste sous un État républicain abstrait et scientifique et technocratique. Voilà. Donc on oppose à tout ça, effectivement, ce que je viens de développer. C'est un mouvement qui va se revendiquer comme étant essentiellement allemand, c'est-à-dire comme révélant une espèce de vocation du peuple allemand qui remonterait depuis le fond des âges. Alors on n'est pas dans l'histoire, évidemment, rationnelle, là, on est plutôt dans la mythologie. Il s'agit d'aller puiser aux origines, les origines à la fois ethniques, naturelles et culturelles. Cette différence-là est gommée systématiquement. Et ce romantisme allemand, il va être construit comme une espèce de réaction à la colonisation de Napoléon. Et il va permettre assez largement, effectivement, d'unifier une espèce de territoire allemand qui était éclaté avec l'histoire de l'Empire depuis Charlemagne, en différents types, différentes régions, différents duchés, différentes souverainetés nobiliaires. Et tout cela va... Alors c'est particulièrement actif du côté de la Prusse, évidemment. Et on va avoir, du coup, politiquement en tout cas, c'est comme ça que va émerger la nation allemande, hein, qui est une nation dont l'histoire est beaucoup plus influencée par une conception organique de la communauté, du sang, de la terre, etc. Donc ça, c'est le 19e siècle. Hein, c'est le
sachant qu'en Allemagne, contrairement à ce qui s'est passé en France, la bourgeoisie ne s'est jamais alliée au peuple contre l'aristocratie.
Alors, y a pas
même
que,
provisoirement.
T'as ça. Et la bourgeoisie s'est jamais associée au peuple, et puis surtout, la bourgeoisie, elle a accédé au pouvoir en régime aristocratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution politique bourgeoise en Allemagne. Il n'y a ni révolution politique bourgeoise en Allemagne, et ni tradition démocratique. Voilà. Et donc, les deux, et d'après Jeffrey, c'est absolument décisif l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et dans l'échec de Weimar aussi. Hein, c'est le fait qu'il ne faut jamais oublier qu'en Allemagne, il n'y a pas de tradition démocratique jusqu'à 1919, c'est-à-dire à la mise en place de Weimar. Donc en fait, il n'y a pas de tradition démocratique, et le nationalisme allemand, c'est un nationalisme qui se fait donc de cette manière-là. Alors là, j'en ai parlé dans les aspects culturels, mais évidemment, ce qui va aussi croiser en quelque sorte cette espèce de revendication culturelle de l'identité du peuple allemand et de la nation allemande, allemande, ça va être aussi un développement industriel à marche forcée et à peu près complet. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce qui se passe en France où l'industrialisation se fait de manière un peu plus lente et on a un pays qui est essentiellement paysan, agricole, et du coup l'industrialisation va se faire mais sur la durée, en Angleterre ça va relativement vite aussi et en Allemagne ça va très très vite. Ça va très très vite et on a une espèce de conjonction et de cocktail très particulier avec en fait un nationalisme autoritaire, traditionnaliste, très aristocratique, très hiérarchique aussi, et un développement industriel global. Et en fait, le résultat de ça, c'est Bismarck et c'est la Première Guerre mondiale. C'est la Première Guerre mondiale avec une espèce de volonté, du coup, naturelle d'expansion de la Prusse et du peuple allemand en général, qui va en fait légitimement imposer sa loi et sa supériorité nationale à l'ensemble. Il n'y a pas de second degré dans cette affaire-là. C'est vraiment le projet initial de Bismarck. Et c'est un projet qui est largement partagé, alors avec tous les guillemets qu'il faut évidemment là-dessus, tous les Allemands, les paysans allemands, les ouvriers allemands sont pas complètement idéologisés ou robotisés par ça, mais si on laisse de côté le mouvement ouvrier allemand qui est extrêmement puissant aussi, disons que là il y a une espèce de courbe de gauche d'Allemands moyens, de classe moyenne allemande et les élites allemandes qui adhèrent sans difficulté à cette idéologie-là. Donc ça, en fait, c'est le romantisme allemand. Ça va avec une critique de la modernité, ça va avec une critique du progrès. Et là où ça coince, effectivement, c'est qu'il y a une espèce de grand écart de la part des nationalistes allemands jusqu'à Weimar entre cette critique de la modernité et en même temps une réalité qui est celle de l'industrialisme allemand triomphant. Et critique de la modernité, pour la droite classique contemplative, un peu goethéenne, on va dire, pour la droite classique contemplative, effectivement, la technologie et le progrès de l'industrie et de la technologie, tout ça, ça fait partie du mal, si tu veux. Tout ça, ça vient de l'Angleterre, ça vient de la France, et l'Allemagne, c'est pas ça. L'Allemagne, c'est les forêts, l'Allemagne, c'est les traditions, l'Allemagne, c'est les Bermudas, l'Allemagne, c'est les bretelles. Moi, j'ai une caricature, si vous voulez, mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut retrouver une espèce de rapport direct à la terre, voilà. Et donc, ça, on est sur des positions de droite classiques qui sont la réaction classique, c'est-à-dire en fait le rejet de la Révolution française en bloc et l'espèce d'aspiration à un retour à l'ancien régime, une société traditionnelle, hiérarchisée, organique, avec des liens collectifs, hiérarchiques, d'homme à homme, et non pas des individus atomisés, séparés les uns des autres, au service de la machine ou de l'industrie. Bon, voilà, pour faire les choses vite.
Et donc, ils vivent pas dans des villes.
Alors voilà, c'est critique important de l'urbanité aussi. Et puis là-dessus arrive la Première Guerre mondiale, qui est en fait un déluge d'acier. Pour paraphraser un titre de...
Alors, Orage d'acier de Junger.
Voilà, pour paraphraser et tordre un titre de Junger lui-même. Et là, effectivement, le grand écart va devenir difficilement tenable. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les valeurs des chevaliers teutoniques issus de leur terroir, de leur culture traditionnelle, etc. En fait, la réalité de la chose, en fait, c'est des tanks, c'est des barbelés, c'est des gaz, c'est des millions et des millions de tonnes d'obus qui sont balancés sur le territoire français envahi par l'Allemagne. C'est en fait une espèce de feu d'artifice catastrophique de la modernité technologique. Et évidemment, du coup, la question derrière ça, c'est comment se positionner quand on est un nationaliste allemand de droite, réactionnaire, hostile effectivement au progrès. Il va falloir composer. Il va falloir composer. Et justement, le rôle de ces auteurs que j'ai mentionnés, Spengler, Junger, Schmitt, Heidegger, ça va être d'une certaine manière de faire une sélection dans le romantisme allemand. Goebbels parle de romantisme d'acier. Ils vont garder en fait tout ce qui est hostile aux Lumières, c'est-à-dire au progressisme politique. Ils vont garder tout ça, et ils vont le durcir et le radicaliser, mais ils vont aussi garder la technologie avec une espèce de petite tour de passe-passe qui va en fait attribuer au progrès technologique et à la supériorité, au succès technologique allemand, une justification culturelle qui est liée justement à l'âme allemande. La volonté du peuple allemand, la volonté de puissance qui porte le peuple allemand et qui est marque de sa supériorité et de sa vocation, même si les autres ne sont pas encore tout à fait au courant et pas tout à fait convaincus, la volonté de puissance du peuple allemand, en fait, elle s'incarne justement dans la technologie. Et à ce moment-là, toutes les choses deviennent plus simples. C'est-à-dire que la technologie, c'est ce qu'il faut encourager, c'est ce qu'il faut... Et du coup, évidemment, il faut réarmer l'Allemagne. Il faut construire des autoroutes, il faut développer les villes. Il faut robotiser au maximum la main-d'œuvre. Il faut casser les syndicats, bien évidemment. Il faut une industrie la plus efficace possible, la plus puissante possible, puisque c'est ça l'expression de l'âme allemande. Et cette âme allemande, elle a une vocation, c'est d'aller niquer l'héritage des Lumières de ces abrutis de Français et de ces banquiers d'anglais. Hein. Et donc l'alchimie qui va être mise en place, elle n'est pas évidente au départ, elle n'est pas évidente, hein. Elle met du temps à émerger et il y a des gens qui ne comprendront jamais rien. Hein. La révolution conservatrice, c'est aussi des vieux aristocrates prussiens qui se baladent en Bermuda sur leur terrain, qui pratiquent la chasse à cour et qui détestent les juifs, les français, les anglais
et les communistes. Technique.
Et les communistes, bien évidemment. Alors, si tu veux, ici, le point important, c'est qu'en fait, on a souvent aussi, ça a été une approche du nazisme, si tu veux, qui a consisté à penser le nazisme comme une pensée uniquement en réaction anticommuniste et anti-révolutionnaire. Ce qui n'est pas faux, bien évidemment, c'est aussi un des facteurs, mais ce qui montre aussi là-dedans, c'est qu'en fait, le travail d'élaboration idéologique des modernistes réactionnaires, il a son autonomie. Il n'y a pas besoin de le penser comme une espèce de réaction anti-marxiste. C'est pas seulement ça. Oui. C'est aussi ça, bien évidemment, mais c'est pas seulement ça. Et si ça n'avait été que ça, sans doute que ça n'aurait pas eu non plus l'espèce d'effet de souffle culturel et politique que ça a eu.
C'est quelque chose qu'on avait aussi présenté avec le bouquin de Zistanel sur les anti-lumières, où il montre que justement, dès la naissance des Lumières,
Il y a une tradition noire, on va dire, des
Lumières, anti-lumières, qui va naître et qui naît quasiment immédiatement.
Et qui est propre à la modernité. Mais ici, chez Sternel, si tu veux, tu n'as pas la précision et tu n'as pas le racinement spécifique que tu trouves
c'est
chez
ça.
Lui.
Parce
dans
que
la Sternel, culture allemande et l'histoire allemande.
Sternel, il s'intéresse aux fondateurs, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à Herder,
oui,
à Vico et à Burke.
Voilà.
Un anglais, un allemand.
Et puis c'est une approche aussi internationale.
C'est une approche internationale. Malgré tout, il y a cette espèce aussi de spécificité d'un mouvement qui n'est pas que réactionnaire, même s'il s'oppose à la modernité telle qu'on nous la connaît. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que malgré tout, ils vont dans la même direction.
Oui, ils vont dans la même direction, mais Geffrère, il rajoute un cran, je trouve, et c'est ce que je disais au début, et que je trouve assez passionnant, c'est effectivement le fait de penser, si tu veux, cette espèce de synthèse-là idéologique, comme dans le cadre des avant-gardes européennes. Hein, comme une forme d'avant-garde. C'est-à-dire que c'est le modernisme, dans ce cas-là, effectivement, c'est en fait l'idée, alors il le dit assez très, très bien à un moment donné, il dit finalement le point commun entre les modernismes européens à ce moment-là, c'est de considérer la créativité et l'essor de la créativité individuelle, le génie créateur et le génie créatif, comme une espèce de crachat à la gueule de la bourgeoisie. Voilà. Et ça, on a ça aussi bien dans les avant-gardes, évidemment, marxisantes, on a ça chez Dada, on a ça chez les futuristes italiens, on a ça, effectivement, dans la littérature française, on a ça partout. Donc ça, c'est le modernisme. Et ces gens-là partagent absolument ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont pas des nazis bourgeois au départ. Hein. Il y a une aspiration à autre chose. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est qu'ils sont porteurs d'une espèce d'utopie, qui est une utopie délirante, criminelle, mais l'idée, c'est d'avoir une espèce de société post-bourgeoise, en quelque sorte. La bourgeoisie, c'est les Lumières, c'est la Révolution française, c'est les Anglais, c'est les Juifs. Hein. Et nous, ce qu'il faut, de leur point de vue, c'est construire une espèce de nouvelle société régénérée, qui est une société post-bourgeoise et hyper-industrialiste. Et en fait, c'est ça l'utopie qui est derrière, et c'est une utopie qui est pas simplement une utopie technique, c'est une utopie spirituelle, c'est ça, à leurs yeux. Et ce qui permet les modèles de ça, alors ça c'est notamment les pages chez Lumière.
Ils sont antimatérialistes.
Ils sont antimatérialistes, bien
et
évidemment.
Et donc la réussite par l'argent, le calcul, l'accumulation,
la norme, l'égoïsme, tout ça. C'est ça, tout ça est hautement méprisable et absolument pas allemand, de leur point de vue. Et
d'où la valorisation du sacrifice,
du don de soi.
Donner sa vie pour la patrie, tout ce genre de trucs.
Évidemment, ce qui permet évidemment ça, c'est ce qu'il appelle, alors ça c'est chez Müller, l'idée n'est pas très originale, mais effectivement, mis dans ces contextes-là, elle prend un sens qui est particulier, c'est la communauté des vétérans de la première, qui ont connu justement ce déluge d'acier-là, et qui se sont, qui sont devenus des espèces de super-héros, et qui représentent l'avenir de l'Allemagne. Et il fait un parallèle très intéressant là-dessus, je trouve, il parle de Benjamin, beaucoup, il reprend pas mal d'analyses de Benjamin, et il parle de la manière dont Benjamin parle des trésors cachés, des trésors oubliés de la tradition révolutionnaire ouvrière.
Ah non, ça c'est Hannah Arendt.
Alors,
c'est Anna Arendt qui en parle, il dit, c'est Anna Arendt qui dit ça, et il dit les
réactionnaires, exactement.
Ils ont aussi leur trésor perdu.
Et t'as la même idée chez Benjamin, c'est ces espèces de moments, si tu veux, d'histoire rétrospective qui travaillent en souterrain et qui, dans des moments comme ça exceptionnels de basculement révolutionnaire, refont surface en quelque sorte. Et là, tout à coup, si tu veux, une tradition qui te paraissait complètement anachronique 15 jours avant, en quelque sorte, va prendre tout son sens et va prendre tout son éclairage. Parce que la révolution est de nouveau là, en quelque sorte, hein, cette espèce d'épiphanie là. T'as une conception comme ça aussi chez Benjamin. Et en fait, il dit l'épiphanie des intellectuels modernistes réactionnaires, c'est ça, c'est la Première Guerre mondiale. Et cette espèce d'homme d'acier là qui a survécu au gaz, au tank, au déluge de balles, et la fraternité d'armes, virile, héroïque, viriliste, bien évidemment, qui s'est créée à ce moment-là. Et ça, c'est là-dessus qu'on va former la communauté. Voilà la communauté de l'avenir.
Ouais. Mais il y avait un bouquin qu'on avait peut-être présenté. De Agon, Junger, fascisme et littérature pure.
Oui, bien sûr. Qui reprend tout ça et qui développe
justement,
ça.
Justement, où il montre comment Junger a publié plusieurs versions d'Orage d'Acier et que quand Orage d'Acier a publié pour la première fois dans les années 20, c'est limite un manifeste politique qui justement met en avant la communauté organique des commandos, ceux qui allaient dans les tranchées.
C'est une utopie de société commando.
C'est ça.
C'est une société commando. Voilà, c'est ça l'idée. Et effectivement, il y a du monde. Il y a du monde, effectivement, qui comprend. Ça parle directement à des tas de gens, cette affaire-là. Et c'est effectivement cette espèce de promesse, en quelque sorte, là, de promesse révolutionnaire-là, qui va, en quelque sorte, servir de carburant à cette idéologie. C'est ce que je trouve assez convaincant. Et alors, la deuxième culbute de Junger, donc, c'est d'une part d'incarner, en quelque sorte, et de rendre crédible, si tu veux, voilà, la figure de l'avenir. Et le deuxième texte important de Junger, c'est Der Arbeiter, le travailleur, qui est une espèce d'allégorie complètement inclassable entre la mythologie, etc., et qui va faire émerger une figure, la figure de l'ouvrier-soldat. Et l'ouvrier et le soldat, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'ouvrier sur sa machine, c'est comme le commando avec le doigt sur la gâchette. On a cette espèce de fusion qui se fait, et à partir de là, il devient possible effectivement de digérer, en quelque sorte, si tu veux, l'industrialisme, la technologie, dans ce qu'elle a de plus brutal, y compris. On peut digérer ça dans le nationalisme culturel allemand et dans le romantisme allemand, une fois qu'on a enlevé ce qui gênait. Hein. Cette synthèse-là à laquelle vont travailler justement tous ces auteurs, en particulier Junger.
Et plus tard Heidegger, dans son discours du rectorat, avec les trois services, le service du travailleur, le service du soldat, évidemment. Le service de l'étudiant,
évidemment.
Mais qui est toujours justement au service d'une plus grande cause pour laquelle se sacrifier. On va faire une deuxième pause musicale et on reprend après.
Modernes Leben in modernen Ländern, moderne Welt, die uns so fällt.
bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit. Après avoir écouté deux groupes dont Jean-Mathias va prononcer les noms, parce que...
Die Tonträger,
voilà.
Die Moderne Welt.
Donc voilà, le monde, monde moderne. Ouais. Et puis Fra Lippolippi, d'où de Modern Pause, donc prenez la pause moderne. Et ce soir, donc, un morceau de allemand d'abord, de 1981, et norvégien ensuite, de 1980. Donc choisi par, évidemment, José, qui est toujours à la pointe de la pertinence. On vous présentait, et on va continuer de vous présenter pour la dernière partie de l'émission, le modernisme réactionnaire, haine de la raison et culte de la technologie aux sources du nazisme. Donc, chez l'échappé, dans la collection Versus, un livre écrit par Jeffrey Herf en 1984, traduit en 2018 en France, et par Frédéric Joly. Et donc, on essayait avec Jean-Mathias, Jean-Mathias nous présentait justement les caractéristiques de ce mouvement a priori contradictoire ou un petit peu monstrueux qui serait un modernisme réactionnaire.
Et une avant-garde, effectivement, à la fois littéraire, intellectuelle, comparable à tous les mouvements d'avant-garde européens de cette époque-là, mais effectivement, avec dans sa version nazie, quoi. Hein. Je parlais juste avant la pause, là, j'étais en train d'expliquer comment, notamment chez Jünger, Ernst Jünger, le romancier essayiste, on trouvait cette espèce de bascule, là, qui allait en quelque sorte liquider dans le romantisme allemand tous les éléments passéistes, anti-industriels et anti-technologiques. Pour au contraire considérer la technologie comme l'expression même de l'âme allemande et de la volonté de puissance allemande, et du coup intégrer évidemment les perspectives de modernisation, la fascination pour la vitesse, pour la puissance, pour l'efficacité de la technique moderne, pour intégrer ça à un romantisme allemand qui reste fondamentalement réactionnaire, au sens où il s'agit de liquider l'héritage des Lumières, des libertés individuelles et essentiellement de la démocratie. Et alors donc ça c'est la matrice, si tu veux. Et donc effectivement les étapes, alors il y a l'expérience des commandos de la Première Guerre mondiale et des anciens combattants humiliés, vaincus par la défaite de l'Allemagne. Il y a ce moment là dans l'essai des Arbeiter, le travailleur, qui construit une espèce de figure mythologique de l'homme de demain, de la promesse de l'homme de demain, qui est à la fois un ouvrier et un soldat, c'est-à-dire qui n'a pas peur de tuer efficacement d'une certaine manière, et d'être efficace comme on tue d'une certaine manière. Ce qui s'opère dans cette affaire là c'est constant dans toutes ces traditions là c'est qu'évidemment toutes les questions politiques et les questions d'usage de la technique disparaissent. C'est-à-dire que la technique devient une chose, et réifiée. C'est une analyse qu'il n'invente pas, ça, on trouve ça déjà chez Lukács, le marxiste tchèque là, qui avait déjà qui avait déjà effectivement pointé ça. Et donc la technique devient l'émanation, une chose, une espèce de est dotée d'un esprit, quoi, d'une certaine manière. Voilà, c'est une chose spirituelle, la technique. Donc la question de savoir pour qui on bosse, la question de savoir qu'est-ce qu'on produit, la question de savoir qui décide, qui travaille, qui obéit, etc. Évidemment, ce sont des questions complètement secondaires.
Ah non, c'est des questions dangereuses qui viennent fracturer la communauté organique.
Et c'est des questions futiles, bien évidemment, à leurs yeux, puisque ce qui compte, c'est avant tout, évidemment, l'efficacité meurtrière. Et voilà. Alors, tout ça, c'est des traits, effectivement, qu'on trouve chez Jünger, mais on les trouve déjà, effectivement, en filigrane chez Spengler, dès son analyse là, du déclin de l'Occident. On va les retrouver, évidemment, chez Heidegger. Et là, évidemment, tu disais tout à l'heure, le livre est de 84 au départ. Alors, ce qu'il ne connaît pas, ce sont tous les textes, effectivement, qui compromettent bien plus que lui ne le pense en 84, que Herf le pense en 84, Heidegger avec le nazisme. Notamment, il n'a pas les textes qui permettaient de prouver le lien entre cette affaire-là et l'antisémitisme profond d'Heidegger. Mais déjà, il a repéré, en 84, ils ne sont pas nombreux à repérer qu'Heidegger, c'est pas le grand sage de la forêt noire existentialiste, c'est quand même effectivement avant tout un philosophe nazi, et en tout cas qui a apporté sa pierre à cette affaire-là. Donc il parle effectivement d'Heidegger, il parle de Carl Schmitt, le juriste. Alors, tout ça sont des auteurs qui depuis effectivement ont été beaucoup plus identifiés qu'ils ne l'étaient à l'époque, mais tout est déjà chez lui, chez Herf là. Et puis il parle aussi notamment de Sombart, Werner Sombart, alors qui lui va parachever en quelque sorte l'affaire en ajoutant le dernier étage de la fusée, à savoir l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il s'agit alors cette fois-ci de relire de nouveau, de réinterpréter la tradition nationale romantique allemande comme une espèce de mouvement de volonté de puissance systématiquement système entravé par les juifs, par les juifs et par l'esprit juif, c'est-à-dire l'esprit de calcul, l'esprit d'égoïsme, l'esprit de la spéculation, l'esprit déterritorialisé.
Alors comment est-ce qu'il ajoute, parce que par exemple l'antisémitisme est déjà présent chez Heidegger, alors Geoffrey ne fait pas forcément les textes.
C'est pas matriciel,
Mais non,
c'est-à-dire que les lumières c'est les juifs.
Oui, mais chez Heidegger aussi.
Alors, en tout cas, c'est pas cet aspect. Lui, ce qui l'intéresse dans son livre, c'est Heidegger, le penseur de la technique.
D'accord.
C'est le penseur de la technique.
Oui, mais tu vois, justement, la technique chez Heidegger, il y a une espèce de tour de passe-passe. C'est-à-dire que tant que l'Allemagne nazie emporte ses guerres grâce à ses armées mécanisées, la technique, c'est bien. Ouais. Ensuite, Heidegger est dans le camp des vaincus. Ouais. Et là, il va rapprocher la technique, il va rapporter la technique au camp des Lumières et dire ce qui va lui permettre, par exemple, d'affirmer des thèses aussi ignobles, plus ou moins, de suggérer des choses comme l'auto-extermination des Juifs.
Historiquement, c'est après. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le modèle.
Dans Être et Temps, en 1927, chez Heidegger, déjà, en fait, le fait que, par exemple, l'oubli de l'être au profit de l'étang à travers la raison, mais tout ça c'est ultra antisémite de base.
Bien sûr, mais bien sûr, tout ça est traduisible, si tu veux, c'est pas assez. Mais lui, ce qui l'intéresse, si tu veux,
c'est pour ça que je posais la question sur son bar. Qu'est-ce qu'il y a spécifique chez son bar?
Chez son bar, c'est qu'en fait, il est sur la même couche, c'est le même niveau de spéculation que les autres. C'est-à-dire que c'est pas de la philosophie, c'est pas de la métaphysique, c'est cette espèce d'essayisme allemand, si tu veux, qui est pétri en fait de la problématique justement entre culture et civilisation. C'est-à-dire qu'il s'est ils se pensent tous comme des visionnaires de la modernité, si tu veux, comme des interprètes de la modernité. Heidegger aussi, d'une certaine manière, sauf que Heidegger le fait avec un jargon, si tu veux, spéculatif et métaphysique. Et
Heidegger, il pense pour 3000 ans, quoi.
Exactement.
Dans sa tête.
Eux, non, ils se pensent d'une certaine manière. On n'est pas sur le même niveau de spéculation, c'est autre chose, si tu veux. On est sur l'analyse des gouffres et les dangers qui s'ouvrent face à nous et qui sont ouverts par la civilisation et qui nous séparent et qui nous coupent toujours de plus en plus de la culture. Il y a cette espèce, c'est Spengler le modèle au départ, c'est-à-dire c'est comment éviter le déclin, quoi, comment éviter la perte de soi, le déclin. Et voilà, donc alors avec cette espèce d'appel à des ressources complètement fantasmées et à l'origine mythologique de l'âme allemande, de l'esprit allemand, etc. Donc c'est ça qui l'intéresse, si tu veux. Ce qui l'intéresse, c'est de voir Heidegger dans ce cadre-là. D'accord. Après, t'as le Heidegger, le métaphysique.
Le dernier étage de la fusée, c'est l'antisémitisme avec son bar.
Alors, c'est ça que je te dis.
Moi, ce que je voulais remarquer, c'est qu'en fait, l'antisémitisme est présent dans toute cette tradition.
Ah bah, tout va pouvoir se convertir et tout va pouvoir prendre cette couleur-là. Mais si tu es celui qui, explicitement, dans ses analyses, tu vois, de la décadence, en quelque sorte, ou des risques de décadence et en même temps des promesses de salut, qui sont internes au peuple allemand, celui qui fait la jonction entre justement les thématiques modernistes réactionnaires, donc refus de la raison, apologie de la technologie, et l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'il va faire le lien explicite, qui va aller chercher du côté de la sociologie, de l'histoire, alors évidemment d'une histoire imaginaire, d'une sociologie imaginaire, c'est son Barthes. Et à partir de ce moment-là, si tu veux, toutes les pièces sont disponibles sur l'échiquier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, si tu veux, il n'y a pas besoin d'attendre tout ça, c'est-à-dire que ce discours-là et cette vision, en quelque sorte, de la situation de l'Allemagne et de la vocation de l'Allemagne, vision purement idéologique, si tu veux, assez barré quand même, faut quand même le dire, elle irrigue déjà des pans entiers de la société allemande. Alors il y a évidemment les anciens combattants dont on a parlé, qui sont pleins, qui sont très nombreux. Il y a les corps d'ingénieurs qui eux évidemment sont bridés, sont limités dans leur exercice par les interdictions de réarmement, par les sanctions françaises, notamment suite au traité de Versailles, et qui en fait vont joindre l'utile à l'agréable d'une certaine manière en développant une idéologie qui est conforme à leur intérêt corporatiste. Mais pas simplement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, avec derrière le fait d'assumer des conséquences, une vision du monde, une projection sur la vie sociale, ça, c'est assez fascinant, si tu veux, parce qu'effectivement, tu t'imagines pas, je veux dire, à la limite... Pour des dandys esthètes d'extrême droite, Junger, tu vois bien le kiff, quoi. Tu vois bien le kiff. Après, pour des tâcherons, tu vois, de l'engrenage, tu vois, ou du plan mécanisé, tu pourrais dire qu'ils sont un peu immunisés contre cette espèce de lyrisme-là, etc. Bah, pas du tout, en fait. C'est-à-dire que non seulement ils sont pas immunisés, mais qu'ils y vont à plein. Qu'ils y vont à plein et qu'en fait, qu'ils vont confirmer, discuter, intégrer, renforcer, etc. Et alors après, t'as aussi évidemment l'aboutissement, c'est la manière dont effectivement Hitler, qui fait feu de tout bois, capte ça, parce qu'évidemment l'efficacité de ça, c'est de permettre évidemment une espèce de rapprochement entre non seulement effectivement les nationalistes du front, Völkisch, etc., et évidemment les industriels allemands, et évidemment l'armée allemande. Hein. Et donc là, évidemment, on a toutes les composantes qui vont permettre effectivement d'asseoir l'arrivée d'Hitler au pouvoir et puis de lui donner les moyens derrière. Et la Shoah, d'une certaine manière, lui, bon, ses parents ont été déportés à Erf, c'est un fils de déporté. Il n'en parle pas explicitement, mais évidemment, l'aboutissement de cette espèce de brutalité industrielle, enfin, un des aboutissements, évidemment, il y a la guerre, il y a le meurtre, etc., mais un des aboutissements, c'est évidemment la Shoah. Hein, qui est donc effectivement une des causes et un des produits de ce modernisme réactionnaire là. Donc voilà, bon, j'ai essayé de. Je suis resté. Encore une fois, je suis très surplombant en fait quand je dis ça, parce que le livre est extrêmement riche, extrêmement informé, extrêmement fouillé, vraiment brillant. Hein, voilà, le modernisme réactionnaire là de Jeffrey Herf. Donc je recommande vivement. C'est très 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 instructif.
J'ai échappé.
Aux éditions de l'Échappée, donc le sous-titre, hein, Haine de la raison et culte de la technologie aux sources du nazisme, il s'agit bien de ça. Et voilà, donc je recommande vivement la lecture.
Voilà, c'était Jeudi Noir, on vous laisse avec un morceau d'Astaford Mods, Le Shift.
Putain! Putain, mais j'en ai marre de me faire chier assis sur ce muret à regarder les camions de tomates qui vont à Marmande. Depuis le temps que je glande avec ces connards de potes qui dans la vie ne veulent pas aller plus loin que Agen, je me dis que je devrais songer à élaborer un vrai projet. J'ai pas envie de ramasser les abricots, j'ai envie d'un truc moderne genre 2.0. Mais je vais pas aller non plus jusqu'à Bordeaux, je me perds tout le temps là-bas, je trouve même pas le métro. Du coup, ambition, création, innovation, je vais livrer de la graille en vélo, révolution, tout en restant à la maison. Alors feu, je vais direct au Décathlon de Agen en bagnole pour acheter un bitouin et des plans chevrotines pour la pause aussi, on sait jamais. Appli installée sur mon iPhone, le 7, ouais, que j'ai commandé sur Amazon. Moderne, avec cubisotherme, casque, support de téléphone et même un jersey. Je sais même pas ce que c'est. Ça y est, c'est parti, j'ai déjà un shift. Ha, tu sais pas ce que j'ai un shift, tocard, c'est moderne. Moderne. J'ai un shift à Montège, ça tombe bien, c'est la dèche. Mais comme je capte pas la 4G, je me repère avec Golfèche. J'ai un shift à Montège, ça tombe bien, c'est la dèche. Mais comme je capte pas la 4G, je me repère avec Golfèche. J'irai après la pêche. Bon, concrètement, c'est vrai, c'est un peu loin, mais je livre 4 pots de carbure, ça se conserve bien. Direction le 82, ouverture transrégionale vers le Tarn-et-Garonne, la garbure est gersoise, interaction, diversité, mondialisée. Valorisation du local, un peu comme une baston entre voisins à la buvette du pal. Pour rester en avance sur mon temps, c'est bien simple, je pédale vénère. Je vais de l'avant sans jamais me retourner, de toute façon ici, y'a rien derrière. Arrivé à l'Irak, je prends le virage, toujours en avance sur mon temps. Mais quand tu prends un virage en avance sur ton temps, en fait tu prends pas le virage, tu tournes avant. C'est prouvé mathématiquement. Je ramasse mon vélo, y'a pas de casse dans les pots, je me suis pas fait de bobo, tant mieux, je suis pas assuré. Moderne. Moderne. J'ai un shift à Montège, ça tombe bien, c'est la dèche. Mais comme je capte pas la 4G, je me repère avec Golfèche. J'ai un shift à Montège, ça tombe bien, c'est la dèche. Mais comme je capte pas la 4G, je me repère avec Golfèche. C'est moderne, mais putain, c'est long. J'ai déjà passé le pont de la 62. J'ai déjà passé une fois la Garonne. Pédale, pédale, pédale. Oh putain, ça y est, j'aperçois la frontière. De l'autre côté, la magistère, super. D'autant que j'ai un 38 tonnes derrière. Le mec klaxonne, pinaille parce qu'il peut pas me dépasser. Mais s'il peut pas me dépasser, c'est justement parce qu'il y a du monde en face. Et qu'à droite, il y a le fossé. Il veut que je fasse quoi au juste? Que j'improvise une lévitation transcendantale à 6 mètres du sol en vélo? Cono. Putain, ça y est, le mec déboîte, il a réussi à passer. Mais ça lui passe pas l'envie de klaxonner. Super. Encore plus super quand tu sais qu'on arrive dans un village limité à 50 à 20 mètres d'une zone 30. Je suis collé au derrière du gros cul que j'ai réussi à rattraper. Et c'est pas les vapeurs de carbure que je respire. Mais le transport routier c'est moderne, alors je patiente et je respecte. Putain. J'ai un shift à Montège, ça tombe bien, c'est la dèche. Mais comme je capte pas la 4G, je me repère avec Golfèche. J'ai un shift à Montège, ça tombe bien, c'est la dèche. Mais comme je capte pas la 4G, je me repère avec Golfèche.
fait, je me repère plus du tout. Parce que Colfèche, c'est derrière depuis au moins Donzac, putain. Mon téléphone, il capte même pas la calculatrice ici. D'ailleurs, bordel, j'arrive à Moissac. Il est évident que malgré mon sens aigu de la modernité, je me suis trompé de chemin. En plus, la Garonne, ici, ils appellent ça le Tarn. J'y comprends plus rien. J'ai la tête qui tourne comme un soleil. Il faut que j'achète une canette de Monster. Mais le proxy, il est fermé entre midi et deux. Donc c'est pas la peine d'y aller avant 15h. Je vais aller boire un café au café de la place. Arrivé, je pousse la porte et là je constate l'ampleur du tonnage. La moitié des marmules de l'équipe de rugby du coin est déjà en train de cartonner les girafes en regardant un match des Six Nations. Je me dirige vers le comptoir en tâchant de pas attirer leur attention. Je sais bien que si tu réunis les 15 types sur un pont bascule, t'es bon pour payer la taxe à l'essieu plein pot. Mais de toute évidence, j'ai dû rater mon coup parce qu'un mec se met à parler en regardant dans ma direction. Je comprends pas exactement sa phrase, mais seulement quelques mots comme moule bit, PD, vélo et casse ta tête. La soudaine activité neurologique de la zone de mon cerveau qui correspond au bon sens m'indique que le mec parle de moi et qu'il est hostile. Mais alors que je paie mon café, je constate qu'une anomalie de liaison entre mon cerveau et ma bouche impulse un mouvement à mes lèvres qui se matérialise par le son suivant. Et tu sais ce que c'est toi un shift connard ? Merde ! Ni une ni deux, la pièce de barbac se dresse à un mètre devant moi. Un truc est sûr, c'est que le mec il est pas lié. Il a le centre de gravité d'une enclume posée sur un flanc, au pruneau. Le mec est peut-être un peu lent, je pourrais essayer de m'échapper, mais je vois même plus la porte d'entrée. Et puis tu pourrais rider ces trapèzes, on dirait des plans inclinés. Et puis il me faudrait toute une vie pour poter la surface copette de son cul à condition de chausser au minimum du 47. Et puis c'est l'occasion de tester à mes dépens la fameuse Antoinette, dont on me dit le plus grand bien. Verdict, pas moderne mais efficace. J'ai rejoint mon vélo avec plus d'avance sur mon temps qu'il ne faut pour le dire. Ouais, finalement c'est moderne, moderne, ouais. J'ai un shift à modeste, ça tombe bien, c'est la dèche. Mais comme je capte pas la 4G, je me repère avec Golfech. J'ai un shift à modeste, ça tombe bien, c'est la dèche. Mais comme je capte pas la 4G, je me repère avec Golfech. Et du coup, je suis toujours paumé, et y'a encore une rivière. Pourquoi y'a toujours au moins deux rivières dans un département? Ça sert à rien les rivières, c'est pas moderne. Ça existait déjà du temps de Mitterrand. D'ailleurs ça c'est un canal. C'est un peu plus moderne, mais ça sert à rien non plus. On te file pas des shifts, c'est en péniche. D'ailleurs, les péniches, elles sont toutes à Toulouse et il y a déjà des restos dedans. Et puis, il me reste un pot de carburant pas cassé, je veux le manger. La prochaine fois, je livrerai en bagnole, ce sera plus moderne.